Que vous soyez un habitué ou une personne en recherche, ou un chrétien d'une autre église ou un croyant d'une autre religion, la grâce de Dieu, la miséricorde et la paix sont avec chacun, en Jésus-Christ, notre frère. Nous chantons notre soif de Dieu avec le psaume 42 que vous trouverez dans le psautier français, les strophes 1 et 3 de ce psaume 42 comme un cerf alterébram. Vous pouvez prendre place pour entendre ce que Jésus-Christ nous propose comme chemin de vie. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ton intelligence. C'est là le premier et le grand commandement, nous dit-il, et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Aucun commandement n'est plus grand que ces deux-là. Et nous chantons le deuxième chant dans le petit livret liturgique qui est donc au début du psautier français « Dieu d'amour, tu fais connaître ». Nous disons à Dieu notre repentance avec ces mots de Grégoire de Nazianze au IVe siècle. J'ai été bien déçu, ô Dieu de Jésus-Christ, par moi-même. Je suis tombé bien bas. Relève-moi. J'ai conscience de m'être trompé moi-même. Si tu me reçois, c'est bien, sinon je meurs. Aurais-je, moi seul, lassé ta bonté ? Éclaire mon esprit, dissipe l'erreur. En toi, Dieu de Jésus-Christ, j'ai plus confiance qu'en la victoire de mes propres forces. Que tous ceux qui se tournent vers Dieu avec confiance reçoivent de lui directement, au plus profond d'eux-mêmes, la certitude de son amour irréductible et la grâce d'une vie renouvelée. « Lève-toi et va », nous dit Jésus-Christ. « Ta foi t'a sauvé, avance dans la paix. » Nous chantons à Dieu notre reconnaissance. Je crois en Dieu le Père, puissant Créateur des cieux et de la terre. L'Éternel règne, il est esprit, il est tendresse et fidélité. L'amour de Dieu envers nous s'est révélé en ceci, alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Je crois en Jésus-Christ, notre Seigneur. Il est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Il est le chemin, la vérité incarnée et la vie. À ceci, tous reconnaîtront que nous sommes ses disciples si nous avions de l'amour les uns pour les autres. Je crois au Saint-Esprit qui rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Nous avons été baptisés dans le seul esprit pour former un seul corps. Je crois au royaume de Dieu, à l'amour plus fort que la mort. Je crois à la vie éternelle. Seigneur, augmente jour après jour la confiance que nous avons en toi. Amen. Gloire à Dieu dans les cieux et sur la terre, et d'éternité en éternité. Comme à peu près tous les grands prophètes d'Israël, Jérémie nous offre dans son livre un passage avec des paroles de consolation et d'espérance. Celles de Jérémie sont particulièrement fortes et sont parmi les plus célèbres de la Bible, à juste titre. Donc dans le livre de Jérémie, au chapitre 31, je vous lirai les versets 31 à 40. « Voici que les jours viennent, oracle de l'Éternel, où je conclurai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. » Non comme l'alliance que j'ai conclue avec leur père le jour où je les ai saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont rompue, quoique je sois leur époux, oracle de l'Éternel. Mais voici l'alliance que je conclurai avec la maison d'Israël après ces jours-là, oracle de l'Éternel. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai sur leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Et pas un humain n'enseignera son prochain ou son frère en disant « Connaissez l'Éternel !» Car tous me connaîtront depuis le plus petit d'entre eux jusqu'au plus grand. Oracle de l'Éternel. Car je pardonnerai leurs fautes et ne me souviendrai pas de leurs péchés. Ainsi parle l'Éternel, qui donne le soleil pour éclairer le jour, les phases de la lune et les étoiles pour éclairer la nuit, qui soulève la mer et fait mugir les flots, l'Éternel des puissances, tel est son nom. Et je vous propose de nous tourner donc vers l'Éternel par le cantique 175 dans le petit recueil « Louanges et prières ». Nous chanterons donc les deux strophes du cantique 175, « Adorons Dieu notre Père ». Éternel notre Dieu, toi qui es la lumière des aveugles et la force des faibles, toi qui es aussi la lumière des voyants et la force des forts, sois attentif à ma prière, car sinon, où puis-je aller? À qui m'adresser? Ô mon Dieu, je suis comme une plante qui a besoin que tu l'arroses en la favorisant de ta bénédiction. Et donc, Seigneur, par ton amour, fais que je puisse découvrir les merveilles de ta parole, parole que tu places au plus profond de moi. Ces promesses de Jérémie ne sont pas simplement au futur pour la fin des temps. Et là-dessus, la traduction en français est un peu trompeuse. Mais d'ailleurs, dans tous les passages de l'Ancien Testament qui sont traduits au futur, puisque les verbes hébreux ne se conjuguent en fait jamais au futur, c'est un temps qui n'existe pas, mais un temps l'inaccompli qui évoque indistinctement tout ce qui n'est pas totalement accompli, donc comme son nom l'indique. Ce temps recouvre ainsi le présent et le futur à la fois. Alors est-ce pour le présent ou pour le futur que nous pouvons vivre, que nous pourrons vivre peut-être, ce chapitre de la consolation qui est le sommet du livre de Jérémie? Eh bien la réponse est dans le texte. Il commence par « voici des jours venants », des jours donc qui sont à portée de main, des jours qui sont faits selon Jérémie, donc à lire comme étant un présent à réaliser en fait. Jésus va plus loin bien sûr, il parlera de ces jours-là, de la consolation future, en disant que l'heure vient et elle est déjà là. Et donc il y a une sorte de changement d'heure qui dit que le futur, le temps des promesses accomplies, c'est déjà pour maintenant. On ne peut donc pas tromper les gens là-dessus. C'est fini, les promesses des lendemains qui chantent, nous dit en un mot Jésus, voyez qu'aujourd'hui chante déjà. Et donc ce passage de Jérémie est devenu un des passages chéris des premiers chrétiens qui ont reconnu dans ces promesses de Jérémie ce qui arrive dans le présent en Christ, Jésus. La nouvelle alliance donc, ou le Nouveau Testament, c'est la même chose, est déjà là. Alors quoi de neuf, quoi de nouveau dans cette vision de Jérémie? Eh bien c'est une nouvelle façon d'associer Dieu et l'homme, Dieu et l'humain. Et cela se trouve au cœur même de cette promesse de Jérémie. L'Éternel nous dit « Je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai sur leur cœur ». Parce que le reste de l'annonce, finalement, n'est pas très différent de ce qu'on trouve ailleurs dans toutes les promesses d'alliance de l'Ancien Testament. Le pardon gratuit de Dieu se trouve déjà dans maint et maint passage, ainsi que le magnifique « Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple ». Ce qui est très nouveau dans cette association entre Dieu et l'humain, c'est le caractère individuel, finalement, de cette nouvelle alliance. La Torah n'est plus donnée à un Moïse pour tout le peuple. Elle n'est plus une lettre figée, écrite dans des tables de pierre, lourdes comme la dalle de marbre d'un tombeau. Mais la Torah se fait écriture sur le cœur de l'humain, de la personne. Une écriture vivante, donc une écriture dynamique, conjoncturelle et même individuelle, puisqu'elle est écrite sur chaque cœur au singulier. Alors cette idée, elle est développée dans bien des grands prophètes de la Bible annonçant le temps enfin attendu du salut de Dieu, expliquant que chacun sera ainsi prophète, directement inspiré par Dieu. Par exemple, selon Joël, « Je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les plus petits des serviteurs et des servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. » Ou alors selon Ézéchiel, « Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau, j'ôterai de votre cœur, de votre corps, le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. » Cette inscription de la Torah dans le cœur de la personne n'est donc pas comme un fer rouge qui marquerait notre cœur de la lettre d'une loi, ou pire, qui programmerait notre cœur, notre conscience, d'une unique interprétation de la loi s'imposant à tous les cœurs. Alors là, oui, il y aurait facilement un peuple, puisque tout le monde serait programmé de la même façon. Mais est-ce que vraiment c'est ce que veut Dieu ? Non, nous dit ce texte, ce n'est pas ainsi que Dieu espère l'humanité. Dieu n'est pas comme ça. Il accompagne chacun, il tient compte de chacun, il s'adapte à chaque situation. C'est ainsi que la Bible parle du Dieu unique en disant qu'il est le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Car Dieu a un rapport particulier, un rapport singulier avec chacun d'entre eux. Et dans la Nouvelle Alliance, c'est ainsi qu'il est avec chacun de nous. Et la Torah est donc en train de s'inscrire dans notre cœur. Et cette Torah est une parole spécifique que Dieu a pour nous à cet instant même. Chacun connaîtra l'Éternel, nous dit Jérémie. Cette connaissance n'est pas un catéchisme qui nous serait téléchargé directement dans notre cœur ou au cœur de notre système de conviction. Ce n'est pas le sens du mot hébreu « connaissance » qui signifie en fait une expérience directe, une expérience même profondément intime. Tous me connaîtront, dit Dieu, du plus petit au plus grand, donc chacun aura une expérience de Dieu, une expérience de la transcendance. Voilà ce dont Dieu rêve, voilà ce qu'il espère, et c'est ce que je vous propose d'avoir comme ambition pour vous-même et aussi pour cette Église, que chacun et chacune puisse être conduit à cette expérience directe, car nous en sommes capables, capables de Dieu, capax Dei, comme le dit saint Augustin. Et donc nul ne dira en définitive « connaissez l'Éternel, car tous le connaîtront directement ». Voilà la vision que nous pourrions avoir, voilà le but de l'Église, non pas de dire à la population ce que nous pensons de génial sur Dieu ou sur le sens de la vie humaine, mais plutôt de dire à chacun qu'il est digne et capable de connaître Dieu directement et d'en être effectivement éclairé en direct. Des personnes pourtant me disent essayer sincèrement d'écouter Dieu dans leurs prières, dans leurs réflexions, attendre, espérer enfin sa parole et n'entendent rien et en sont tristes. Mais je pense que Dieu est bien moins compliqué, bien moins spectaculaire que ce que nous pensons souvent, que ce que nous attendons peut-être. Saint Augustin lui-même, précisément peut-être parce qu'il était un immense grand homme d'intelligence, d'érudition, cherchait Dieu bien trop haut et a mis donc trop de temps, nous dit-il, à le trouver. Bien tard, je t'ai aimé, nous dit-il dans les confessions. Bien tard, je t'ai aimé, ô beauté si ancienne et si nouvelle. Bien tard, je t'ai aimé. Et voici que tu étais au-dedans de moi-même et moi, au-dehors, c'est là que je te cherchais. Tu étais avec moi et je n'étais pas avec toi. Tu as appelé, tu as crié, tu as brisé ma surdité. Tu as brillé, tu as resplendi et tu as dissipé ma cécité. Tu as embaumé, j'ai respiré et haletant, j'aspire à toi. J'ai goûté et j'ai faim et j'ai soif. Tu m'as touché et je me suis enflammé pour ta paix. Et donc oui, Dieu est bien sûr bien au-delà de nous, bien au-delà de la conscience humaine, bien au-delà même de l'univers matériel. Et pourtant, c'est là, en nous, que nous le trouvons. Alors pour recevoir cette incroyable force, cette espérance, cette lumière que donne Dieu, et ces livres de consolation ne sont pas simplement des promesses fumeuses. Pour recevoir cela, il n'y a rien de plus simple, nous dit Jérémie. Il suffit de lire dans notre propre cœur ce que Dieu y inscrit en particulier. Nous sommes faits ainsi. Comme Christ notre frère, nous sommes la parole de Dieu faite chair. La parole de Dieu faite cœur, inscrite en nous, dans cette part de nous-mêmes que l'on appelait cœur dans le langage de la Bible et que l'on pourrait appeler en français courant notre conscience ou notre fort intérieur peut-être. Nous sommes capables de sentir ce qui est vraiment juste, de sentir ce qui met notre être en harmonie au lieu de le tordre. Et donc pour chercher ce qui plaît à Dieu, pour chercher ce qui est bon, ce qui est juste, ce qui va être source de vie montante, il me suffit de consulter ce qui me plaît, ce qui plaît à mon cœur, puisque Dieu y a inscrit sa Torah, sa loi parfaite. Ben c'est génial, c'est la liberté. Quelle fête va être maintenant ma vie ? Oui, sauf que dans notre cœur, nous dit Jérémie, il y a la Torah inscrite par Dieu qui est en train de s'inscrire, mais quelques chapitres avant le passage que je vous ai lu avec joie, il n'y a pas que la Torah de Dieu qui est inscrite dans notre cœur. Il y a aussi autre chose. Jérémie nous dit, de la part de Dieu, le péché est écrit avec un burin de fer, avec une pointe de diamant. Il est gravé sur la tablette de votre cœur et sur les cornes de vos autels, sur les coins de ce que vous adorez, de votre adoration. Et donc la sincérité n'est pas tout. Il ne suffit pas de faire sincèrement ce qui nous plaît pour être dans le vrai. C'est ce que nous dit d'ailleurs autrement l'histoire d'Adam et Ève. Ils sont pleinement sincères et ils trouvent que l'arbre est interdit, effectivement, est très désirable. Ils lisent cela dans leur propre cœur, car évidemment, le serpent qui parle est une figure de leur propre tentation qui s'exprime au plus profond d'eux-mêmes, bien sûr. C'est même une part d'eux-mêmes. Mais le texte montre qu'ils sentent bien que quelque chose est tordu dans cette voie-là. Cette voix qui les invite à adorer leur propre jouissance personnelle. Et que cela fait une différence avec mille autres choses joyeuses et bonnes dont ils ont profité avant dans ce jardin des délices et mille autres délices encore qu'ils pourraient choisir. Mais que le choix qu'ils sont en train de faire là est tordu, qu'il n'est pas le meilleur pour eux à ce moment-là. Et ils le savent en fait très bien. Ils le savent infiniment mieux que si une table de pierre portant une vérité éternelle, universelle, leur était jetée à la figure. Notre cœur est ainsi bien complexe, mais bien parlant aussi. Notre cœur est complexe et pourtant les prophètes de la Nouvelle Alliance nous affranchissent de la bonne vieille table de pierre universelle pour nous inviter à faire confiance à notre propre capacité de découvrir et de lire cette Torah que Dieu a inscrite dans notre petit cœur, dans notre conscience à chacun. Quel risque, quelle audace quand on sait que sur notre cœur, il y a aussi le péché qui est inscrit. Donc ces prophètes connaissent bien la difficulté, évidemment, et ils n'en font pas un obstacle pour ce programme. Ils lèvent même cet obstacle et notre peur de nous tromper, en mettant au cœur de cette promesse celle d'un incroyable pardon. « Oracle de l'Éternel, dit Jérémie pour insister, je pardonnerai leurs fautes et je ne me souviendrai pas de leurs péchés. » Nous pouvons donc y aller sereinement, hardiment, oser lire dans notre cœur avec sincérité et nous sentir autorisés d'y lire la Torah de Dieu, Torah que Dieu est en train lui-même d'inscrire dans notre conscience en direct, rien que pour nous. C'est vrai qu'il y a une incroyable liberté dans ce projet de Dieu pour nous, projet que Dieu réalise en nous donnant une conscience éclairée par son souffle, par sa parole. Mais cette liberté, nous dit l'apôtre Paul, elle comprend ce risque. Et donc ne faisons pas de cette liberté un prétexte pour faire n'importe quoi. Comme des petits Adam et Ève, dansant avec notre serpent et chantant « Tout est permis, tralalala », dansant et chantant, faisant qu'à leur bon vouloir. Il n'y a qu'une infime différence entre ces deux mots, liberté et libertin. Vous n'avez presque pas entendu la différence. Et pourtant, entre les deux, il y a une différence énorme, énormément de joie ou de souffrance. L'un est force de vie, l'autre est force de mort. Seulement voilà vraiment. Dieu nous rend capables d'une liberté féconde et créatrice. Il inscrit dans notre conscience sa Torah. Il nous donne à tous d'être prophètes à notre façon. Il s'exprime en nous. Et la plupart du temps, nous dit ce texte, Dieu s'exprime en nous comme par écrit en fait. Sa loi est donc à déchiffrer dans notre conscience, dans notre cœur que l'on ouvre d'abord, et puis ensuite lire, c'est déchiffrer, c'est interpréter le sens de ces mots, de ces lettres. C'est donc faire passer d'abord, après l'ouverture du cœur, le déchiffrement, ensuite notre analyse, et puis faire passer dessus ce second volet de l'action de Dieu dont parlait Jérémie, c'est son pardon. Son pardon qui ne garde que le bien et qui oublie ce qui est mauvais, qui l'efface. Ce souffle purificateur qui a manqué à Adam et Ève. Alors donc ça c'est très concret en fait, et cela se vit dans la prière, dans la méditation. Puisqu'aussi bien l'écriture de la Torah dans notre cœur, que cette puissance active de la purification de Dieu, de notre purification de notre lecture, l'écriture comme la purification se vivent dans la connaissance de Dieu, donc c'est-à-dire dans l'expérience d'une relation personnelle avec lui. Il ne s'agit donc pas seulement d'ouvrir notre petit cœur pour voir ce qu'il peut y avoir écrit, mais de l'ouvrir avec Dieu, de le lire avec lui, de lire ce qui est inscrit par lui et de faire le tri entre la voix du serpent et ce que nous allons lire dans notre cœur venant de Dieu. Et donc très bien, nous voilà armés pour être libres et bons comme un vrai prophète du Dieu vivant, tout en ayant moins de risques de devenir un libertin pour notre plus grand malheur et pour le malheur de nos victimes. Mais comment faire un peuple de cet ensemble innombrable de prophètes, tous lisant une vérité particulière au fond de leur propre cœur singulier ? Alors dans l'Ancienne Alliance, il y a une seule Torah qui s'imposait à tous comme un rempart. Elle tenait lieu de foi et de constitution. Les Hébreux sont ainsi le peuple de la Torah, car elle les assemble en un peuple, même s'il y a une diversité d'interprétations, bien sûr, de la lettre de la Torah. Mais avec cette alliance nouvelle qui fait de chacun un prophète, comment faire de cet ensemble un peuple, comme le dit ici Jérémie ? C'est que l'unité n'est alors plus externe, avec une frontière, comme avec une contrainte extérieure, mais l'unité est interne, elle est systémique. Pour faire un peuple, pour faire une communauté humaine vivable, il est évidemment bon de ne pas se tuer entre nous, de ne pas voler les autres, de ne pas tromper ceux qui nous aiment, comme le disent les décalogues inscrits sur les tables de pierre. Dans l'ancien modèle, une table de pierre nous disait ainsi que c'est interdit de faire ce genre de choses. Dans le nouveau modèle, cela même devrait nous faire vomir rien que d'y penser, comme Dieu lui-même a horreur du mal. Et donc ce n'est plus seulement externe, c'est interdit, mais j'en ai même plus envie, quoi. Alors, est-ce que c'est possible? Eh bien oui, ça l'est. Progressivement, certes, mais nous pouvons réellement mesurer nos progrès, là encore, si nous lisons sincèrement en nous-mêmes, avec l'aide de Dieu. Alors, comment est-ce que ça pourrait être possible? Ben oui, uniquement par l'action de Dieu en chacun, en moi et en toi. La sagesse, l'effort humain n'y suffisent absolument pas, nous le savons très bien, et l'histoire de l'humanité le dit assez. Il y faut plus grand que l'humain. Il ne s'agit pas simplement d'une intériorisation de la Torah. Ce n'est pas simplement une adhésion sincère aux lois du vivre ensemble, ce qui serait bien sûr un minimum. Mais c'est une présence vivante de Dieu en chacun. C'est l'Esprit de Dieu qui fait de nous un corps, nous dit l'apôtre Paul. Et il le dit aux chrétiens de Corinthe qui sont en train de se taper dessus, de se diviser comme des gamins. Nous ne sommes alors plus le peuple d'une religion, ni le peuple d'un livre, ni le peuple d'une confession de foi, ou le peuple d'une église. Mais nous sommes un corps mystique. Nous sommes le peuple, mais le peuple de Dieu. Dieu qui rassemble tous ceux qui l'éclairent avec son soleil, avec sa lune et avec ses étoiles, nous dit Jérémie. Donc, l'humanité entière. Donc, non pas une seule loi transcendante, commune à tous, mais une loi particulière que Dieu inscrit d'une manière dynamique dans le cœur de chacun, à chaque instant. Cette action multiple de Dieu comme source d'une unité vivante entre nous tous. Alors c'est un changement de paradigme très profond que cette nouvelle alliance. Il traverse d'ailleurs toute l'histoire de la philosophie avec la question ou la querelle des universaux, de Platon et Aristote jusqu'au rasoir d'Occam. Mais aujourd'hui, nous sommes, comme le dit Jésus, dans un entre-deux, dans un changement d'heure. L'heure où nous vivons par l'Esprit étant déjà là, mais aussi encore à venir, à attendre, à préparer, à cultiver. Prions donc que Dieu nous donne l'Esprit qui nous fait vivre et qui nous unit en un seul corps. Et gardons peut-être quand même encore un œil sur ce bon vieux décalogue qui nous appelle à ne pas complètement faire n'importe quoi non plus. Amen. Alors je vous propose de chanter dans le petit recueil Louanges et prières le cantique 222 « Que la moisson du monde est grande suscite au Dieu des moissonneurs » donc les trois strophes de ce cantique 222. Vous pouvez prendre place le temps de quelques annonces. Alors d'abord, il y a donc les assemblées générales après le culte, assemblée générale de l'association cultuelle de l'Église, de l'oratoire donc, et de l'association 1901 de l'entraide de l'oratoire. Donc à la fin du culte, le temps d'installer un peu les tables et de s'organiser. Eh bien, les assemblées générales vont pouvoir s'ouvrir. Alors, si vous êtes membre électeur, c'est-à-dire si vous avez rempli avant le 31 décembre 2016 les papiers d'inscription, vous pouvez participer à, ces assemblées générales et puis voter. Si vous n'êtes pas inscrit, vous pouvez néanmoins rester, si ça vous intéresse, mais c'est bien sûr pas obligé, pour voir un peu comment ça se passe et avoir des nouvelles donc de notre Église, de l'oratoire. Lundi, demain soir à 19h30, il y a le groupe de grec biblique progressant. Mardi après-midi à 14h30, il y a le groupe biblique donc avec le pasteur Patrice Rollin sur les chapitres 17 et 18 du livre de l'Apocalypse. Mercredi soir à 19h30, toujours en face aux 4 rues de l'Oratoire, il y a le groupe des étudiants et jeunes actifs, donc avec un dîner partagé. Les étudiants ou les jeunes actifs peuvent venir avec quelque chose à partager comme nourriture ou comme boisson. Et puis nous avons aussi un temps de débat. Le débat, le sujet du jour, ça sera les trois dimensions de l'humain selon Pascal. Alors jeudi soir, il y a la répétition du chœur de l'Oratoire. Et puis samedi matin prochain, il y a l'initiation à la théologie qui a sa dernière rencontre du parcours de 6 rencontres qui permettent à ceux qui le désirent de découvrir la foi chrétienne. Donc le chapitre, dernier chapitre, c'est sur l'éthique chrétienne. Ce n'est pas un chapitre le plus facile. Samedi aussi, à 10h, il y a le groupe d'hébreux bibliques avec le pasteur Castelnau. Et puis, samedi à 16h, il y a aussi une invitation du chœur à venir chanter pour préparer le culte du lendemain, donc du dimanche 2 avril. Culte qui sera présidé par le pasteur Manoël, qui est le président de cette fondation importante des diaconesses de Rueil, avec leurs multiples hôpitaux, et en particulier avec cette dimension d'accompagnement de ceux qui sont en fin de vie. Et puis donc dimanche après le culte, il y a aussi le repas paroissial à midi, et donc c'est préférable, si c'est possible, de s'inscrire pour dire son intention de venir, soit à la sortie, donc au comptoir librairie, ou pendant la semaine au secrétariat. Maintenant, c'est le moment de l'offrande. C'est vrai que nous recevons tout gratuitement de la part de Dieu. L'offrande est une façon aussi de replacer dans notre existence en perspective le spirituel comme gouvernant le matériel. Nous nous unissons dans la prière. Père éternel, oui, que la moisson du monde est grande. Tant de personnes merveilleuses, tant de beauté, tant d'instants précieux à passer ensemble, tant de rires et de joie, tant de confidences à une oreille et un cœur ami. Aide-nous à moissonner et à recueillir chacune de ces graines de beauté, de bonté et de vie. Et fais-nous semeurs de ces merveilles, semeurs de foi, d'espérance et d'amour, semeurs d'enthousiasme pour ton évangile de vie, semeurs de paix et de justice, de bonté. Et que personne ne soit oublié ainsi, aucune valeur humaine non reconnue, aucune souffrance non assistée, aucune pauvreté qui ne soit ensemencée de ton évangile de vie. Et pour cela, unis dans une même foi en toi, dans la communion avec tous les chrétiens de toutes les églises, nos cœurs élèvent avec confiance vers toi la prière que le Christ nous a confiée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas enfermer dans la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et nous recevons maintenant en particulier la bénédiction qui vient de la part de Dieu sur notre existence tout entière. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde, toi. Que l'Éternel fasse briller sur toi sa lumière et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel lève son visage vers toi et te donne la paix. Grâce te soit rendue, ô Dieu de vie.